RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis, avec Melchior Gormand.
Promenons-nous dans les bois ce matin, ou en tout cas demandons-nous où en sont les enfants et les jeunes de notre société urbanisée dans leur lien avec la nature. On va essayer de cerner comment se fait ou ne se fait pas cette reconnexion à la nature et surtout comment la renforcer. On se penchera aussi sur les vertus de ce lien, ce qu'il permet, comment il peut être un moteur de la transformation écologique de nos sociétés. Et tout cela grâce aux scouts et guides de France avec qui nous sommes partenaires pour cette émission. Notez que dans la seconde partie de l'émission, justement à partir de la méthode scout, on évoquera concrètement ce point clé du scoutisme, à savoir la vie dans la nature, comment se décline cette méthode et comment concrètement on se reconnecte à la nature chez les scouts. On verra ça à partir de 10h. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Faites-nous part de vos observations sur le lien à la nature des enfants et des jeunes que vous connaissez. Dites-nous quels sont à votre avis les enjeux de cette relation des jeunes à la nature et ce qu'elle peut produire. Et à l'inverse, quelles sont selon vous les conséquences de l'absence ou du peu d'existence de ce lien? On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Bonjour Anne-Claire Léo.
Bonjour Melchior, bonjour à toutes et à tous.
On parle de reconnexion des jeunes à la nature ce matin.
Oui, alors à l'heure où en France on est plus de 80% de la population à vivre en ville, la question se pose réellement, non pas que la nature ne puisse pas être présente en ville, mais nos modes de vie urbains avaient tendance, en tout cas jusqu'à récemment, à l'évacuer au maximum. Depuis quelques années, le constat est posé d'une déconnexion à la nature et l'analyse en est faite des conséquences fâcheuses de ce phénomène, fâcheuses pour chacune et chacun individuellement, et puis fâcheuses pour le collectif, pour la société et pour la planète. Et celles et ceux qui, plus ou moins consciemment, plus ou moins confusément, savent qu'il y a là une question majeure pour notre avenir, sont peut-être aujourd'hui majoritaires. Et il y a de nombreux livres qui proposent une réflexion sur le sujet. Par exemple, on peut citer cet ouvrage collectif paru récemment aux éditions Autrement, « Repenser notre relation à la nature à l'heure de la sixième extinction » ou encore « Réenchanter notre relation au vivant » de l'écothéologien Michel Maximeger, qu'on accueille souvent sur cette antenne. Et si elle se pose à tous les âges, la question est particulièrement aiguë pour les plus jeunes qui grandissent dans ce monde déconnecté de la nature et qui sont aussi celles et ceux qui ont à construire notre société menacée jusque dans sa survie par l'urgence écologique. Que reste-t-il dans cette génération du lien à la nature? Quel est l'état des lieux? Pourquoi cette déconnexion représente-t-elle un péril? Quelles en sont les conséquences? Et à l'inverse, lorsque cette relation peut se tisser, qu'est-ce que cela produit? Et si elle se retissait à grande échelle, de quoi cela serait-il porteur pour la société? Enfin, comment faire pour opérer cette reconnexion? Ce sont les questions qu'on va aborder au cours de cette première heure d'émission, Melchior.
Avec nos deux invités qui nous font le plaisir de nous accompagner jusqu'à 10h ce matin.
Oui, j'accueille pour commencer Aurélie Zwang, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante, chercheuse en sciences de l'éducation, membre du laboratoire interdisciplinaire de recherche en didactique, éducation et formation de l'Université de Montpellier. On remercie d'ailleurs au passage Cédric Combet de RCF RO qui nous permet ce duplex. Vous êtes agrégée en sciences de la vie et de la terre et vous avez enseigné en collège et en lycée pendant une quinzaine d'années. Actuellement, vos travaux portent sur les médiations et les pratiques en éducation à l'environnement, à la croisée de l'école et de l'éducation non formelle. Et à ce titre, vous étudiez par exemple l'éducation dans la nature. Vous nous parlerez tout à l'heure de votre travail et aussi de votre expérience, sans doute, de lien avec les jeunes lorsque vous étiez enseignante. Bonjour à vous, Boris Briantet.
Bonjour.
Vous êtes le responsable national nature des scouts et guides de France. Donc avec vous, on est du côté de l'éducation non formelle et même plus précisément de l'éducation populaire. En quelques mots, qu'est-ce que c'est un responsable nature chez les scouts et guides de France? Quel est votre rôle?
Alors, responsable national nature, ça a été une mission qui a été créée il y a 3 ans. Et mon rôle est de travailler sur l'ensemble des programmes éducatifs autour des activités dans la nature. On sentait qu'on avait le besoin de redonner une petite impulsion sur cet aspect-là, qui est un pilier essentiel de notre méthode éducative.
Et je précise que c'est un engagement bénévole, hein, c'est ça?
Exactement.
Eh ben merci à tous les deux d'être avec nous dans cette émission. On va commencer par notre chronique Tout est lié. Ce matin, nous accueillons Stécie Algrin.
Bonjour Stécie.
Bonjour.
Alors vous avez décidé de prendre le contre-pied de notre sujet ce matin et de nous parler de connexion ou de reconnexion technologique.
Droit à la déconnexion, besoin de reconnexion. Mémoire saturée,
corps en surchauffe, panne de réseau. Les mots fusent et les métaphores pour qualifier ce dark mode dans lequel nous semblons collectivement nous trouver ne manquent pas. Moi qui ai grandi partagé entre le mythe de la petite sirène et la théorie de l'évolution de Darwin, je vois une nouvelle piste à explorer. Soumis à la puissance du progrès technologique, enlacé à chaque seconde par quelques ondes invisibles, l'espèce humaine est parvenue à donner naissance à un être supérieur, tout puissant.
Alors de qui ou de quoi s'agit-il ?
L'Usbin. Mi-homme, mi-clé USB, cette version augmentée de l'Homo sapiens surpasse tout ce que les auteurs de science-fiction avaient pu imaginer jusqu'ici. Soucieux des forces naturelles en présence et quelque peu irrité de constater les limites de notre pouvoir, cela faisait déjà bien longtemps que les labos les plus compétents du monde s'étaient mis en quête de la clé de notre salut, de ce moyen de nous sortir de cette roue terrifiante du vivant. Humanoïde, IA sauce ChatGPT, les premières tentatives de fraternisation avec la Divinitech s'étaient soldées par un vrai carnage. 2035, attaque de chiens robots. 2038, panne de réveil générale suite à un piratage par Alexa. Mais enfin, 2039, les scientifiques identifiaient la solution. Elle se trouvait dans cette petite chose que mes grands-parents utilisaient autrefois pour réaliser une chose aussi banale qu'imprimer l'exposé d'anglais de leur gosse, la fameuse clé USB. Dotées tout comme nous, humains, de capacités de stockage plus ou moins développées, elles avaient ce petit quelque chose que nous n'avions pas, le pouvoir de s'éjecter en un clic de leur environnement. Oui, en un clic droit précis, la clé USB pouvait se déconnecter en paix. En un clic, elle pouvait dire au revoir au chaos du bureau et à l'angoisse des alertes antivirus de Windows. S'en suivait alors de longs mois dans la tranquillité du royaume des clés USB, le tiroir. Alors le jour où nos chers scientifiques sont parvenus à greffer des petits bouts de clés USB à notre ADN, c'était la promesse d'un monde libéré de ses contraintes et de la peur d'être dominé. En un seul clic, l'humain était enfin déconnecté de la nature. Fini la menace climatique et l'effondrement de la biodiversité, fini la dictature des abeilles laissant planer la menace d'une famine au-dessus de nos têtes. Fini les piqûres de méduses à la plage et les réveils à 6 heures du mat pour le coq du voisin. On avait travaillé dur, mais on l'avait enfin, notre tiroir à nous.
Merci beaucoup, Stécie Algrin, pour cette chronique. Tout est lié, que vous pourrez réentendre dans la matinée sur rcf.fr. Une chronique qui vous fait peut-être réagir. N'hésitez pas d'ailleurs à nous appeler au 04 72 38 20 23. En tout cas, ça nous fait réagir, nous, et ça nous donne du grain à moudre, Anne.
Effectivement, alors cette chronique en mode science-fiction que nous propose Stécie Algrin pour démarrer nos échanges, qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette idée qu'on pourrait se déconnecter totalement de la nature et que ça pourrait être bien? C'est quelque chose qui existe, Aurélie Tsang, par exemple, dans la génération des jeunes d'aujourd'hui?
Alors, généraliser, c'est peut-être un petit peu difficile, mais en tout cas, il est vrai que nos vies passent par un certain nombre de médiations numériques. Et la question, c'est de savoir quel lien, quelle relation on établit avec l'environnement, avec ce qui nous entoure, et en particulier avec la nature. Alors là, dans la chronique, il y avait la métaphore de la connexion, du réseau, etc. Est-ce que on peut faire la même métaphore avec notre lien à la nature? Peut-être qu'il faut peut-être interroger ce vocable de connexion, justement.
Boris Briantet, qu'est-ce que ça vous inspire? Effrayant ou...
Je ne sais pas, en fait, et c'est une question que je me pose. La question de la déconnexion, elle est complexe, et en fait, on se rend compte aussi chez nos jeunes que... Il y a une connexion, notamment vis-à-vis des enjeux environnementaux. C'est quelque chose qui est très présent aujourd'hui dans la jeunesse. On le voit dans les marches pour le climat. Donc, dire qu'il n'y a pas de connexion avec la nature, c'est peut-être aller un peu loin. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a peut-être une perte d'espace de rencontre avec la nature. Et c'est en ce sens que notre action, elle est éducative.
Justement, on peut s'arrêter un instant sur les mots, et peut-être qu'ils sont effectivement mal choisis, ces mots-là. Est-ce que c'est pertinent, Aurélie Tsang, de parler de connexion ou reconnexion à la nature? Est-ce que c'est... Parce que si on parle de reconnexion, ça voudrait dire que c'est perdu, en fait, dans cette génération.
Oui, on pourrait parler de liens, de relations, de comment on s'identifie aussi à la nature, mais aussi comment on se sent aussi différent par rapport à la nature, comment on peut interroger aussi ce mot de nature. En tout cas, il est clair que l'enjeu, il est éducatif. En fait, il me semble qu'il faut prendre conscience de la construction sociale, progressive en fait dans notre rapport à la nature. Je pense que l'entrée par le rapport à la nature est peut-être un petit peu plus heuristique que connexion ou déconnexion. Et donc quel rapport à la nature on construit dans la famille, on construit à l'école, on construit aussi quand on est juste corporellement immergé dans des espaces naturels. Voilà.
Justement, vous employez le verbe construire. Ça sous-entend que ce rapport-là à la nature, comme vous dites, c'est pas quelque chose d'inné, qu'on a en naissance, c'est quelque chose qui se construit.
Alors, il y a le biologiste Wilson qui parle de biophilie. Selon lui, il y aurait une tendance innée du petit humain à être connecté justement à la nature, à avoir un rapport à la nature plutôt sain, on pourrait dire, en tout cas à aller vers la nature. Et puis progressivement, culturellement, eh bien on construit notre rapport à la nature. Et c'est là où l'éducation va jouer un rôle. Et la question est de savoir comment ce rapport va être construit. Est-ce qu'il va être construit progressivement en aversion, et donc progressivement on va avoir peur, je sais pas moi, des insectes, de toucher la terre, etc. Alors que le jeune enfant, il adore toucher la boue, faire de la gadoue, on le voit très très bien dans les expériences d'école au dehors. Et puis progressivement, en fait, on s'en détache, mais aussi nous, dans nos sociétés occidentales, on est corporellement beaucoup moins en contact, en fait, au fur et à mesure des années. On enferme nos enfants progressivement, nos adolescents. Il y a aussi l'impact des écrans aussi, hein, qui vont jouer. Et donc on s'en détache. Et puis on considère que peut-être cette nature, c'est peut-être quelque chose de secondaire. Il y a peut-être des choses beaucoup plus importantes. C'est aussi la place qu'on lui donne.
Boris Briantet, vous, qu'est-ce que vous voyez les enfants et les jeunes vivre chez les Scouts et Guides de France? Vous disiez tout à l'heure qu'il y a un désir de nature, mais sur cette question-là, est-ce que c'est quelque chose d'inné? Quand vous regardez les plus petits, par exemple, que vous accueillez, qu'est-ce que vous voyez?
Alors, pour revenir sur la question, c'est déjà un désir très fort. Ça, c'est indéniable. Quand on interroge les jeunes qui sont membres des Scouts et Guides de France, très clairement, la première attente, quand ils nous rejoignent, c'est de vivre dans la nature.
Les scouts sont identifiés pour ça, quoi, aussi.
Ouais, exactement. Exactement, on est identifiés pour ça. Et notre méthode éducative s'appuie depuis plus de 100 ans sur ce lien fort avec la nature. Un pilier de notre méthode est vraiment cette vie dans la nature comme un outil de développement personnel. Et on va construire justement ces expériences progressives petit à petit. Moi, j'aime bien dire, en fait, on a envie de protéger la nature, on a envie de protéger ce qu'on aime. On aime que ce qu'on connaît, on ne connaît que ce qu'on a été amené à découvrir. Et c'est en ça que le rôle de l'éducateur chez nous, il est important. Il va construire ses expériences, ses expérimentations progressives de la découverte vers la création d'un lien affectif et ensuite une volonté de s'engager pour la protection de l'environnement, ce qui est aujourd'hui essentiel dans nos sociétés.
Est-ce qu'on a, Aurélie Swank, des indicateurs qui peuvent nous parler de ça, de la manière dont, globalement, dans notre société, on est aujourd'hui ou pas en rapport avec la nature, et en particulier chez les plus jeunes?
Alors, il y a des études en psychologie de l'environnement Il y a cette hypothèse aussi qui a été établie par Richard Louv, hein, qui est un journaliste, hein, sur le syndrome du manque de nature, qui se manifesterait par de l'hyperactivité, par de l'obésité, par toutes ces conséquences, hein, qui sont liées à notre sédentarité. On constate effectivement une sorte peut-être de malaise, en tout cas chez certains jeunes, et on pourrait se dire que effectivement c'est certainement lié à nos modes de vie. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là, quoi. L'enjeu, il est alors progressif, et probablement que pour les adolescents, ça va pas être la même chose que pour les enfants, parce qu'ils ont acquis des habitudes sociales et ils se sont socialisés. Alors bon, pour les guides et scouts de France, ils se sont beaucoup socialisés dans la nature, mais aussi il y a d'autres jeunes qui se socialisent pas de cette façon-là. Donc comment on leur fait comprendre que aller dans la nature, ça peut être aussi quelque chose qui peut être positif, fun, etc., quoi. Et pour les adolescents, c'est l'enjeu, il me semble, est beaucoup plus délicat, en fait.
Ce matin, on parle, vous l'entendez, hein, de la reconnexion des jeunes à la nature, et vous avez toutes et tous la parole pour témoigner. Faites-nous part de vos observations sur le lien à la nature des enfants et des jeunes que vous connaissez. Dites-nous quels sont, à votre avis, les enjeux de cette relation des jeunes à la nature et ce qu'elle peut produire. Et puis, à l'inverse, quelles sont, selon vous, les conséquences de l'absence ou du peu d'existence de ce lien. On vous attend au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct@rcf. .fr. Ah, nous continuons avec nos deux invités ce matin, Aurélie Zwang, enseignante-chercheuse en sciences de l'éducation, et Boris Briantet, responsable national nature des scouts et guides de France.
Oui, Boris Briantet, vous nous disiez que ce désir de nature, vous observez qu'il existe chez les enfants et les jeunes, et que souvent c'est pour ça qu'ils viennent chez vous. Mais en fait, c'est eux qui ont ce désir vraiment et qui le formulent, et si oui, quels sont leurs mots? Ou alors est-ce que c'est plutôt les parents qui ont cette demande-là quand ils viennent inscrire leurs enfants aux scouts et guides de France?
Alors, je pense que c'est un peu des deux. On est identifié, en effet, comme vous le disiez, comme un acteur de l'éducation à l'environnement, de l'éducation par la nature, par les parents. Parfois, en effet, le premier pas, il est celui des parents. Derrière, en fait, ce qu'on essaye de faire régulièrement, c'est d'interroger les jeunes. Les jeunes chez les scouts et guides de France, ils sont pilotes de leur projet. Et on sent qu'il y a de plus en plus, en fait, de projets que eux proposent et que eux mènent, qui vont se tourner vers ces enjeux de nature, que ce soit la vie dans la nature chez nous, un terrain d'éducation, et que ce soit aussi des projets vers des engagements environnementaux de protection de la nature. Et ça, on arrive assez facilement à le mesurer chez nous. On le mesure aussi par des enquêtes régulières pour savoir quelles sont les activités qui leur plaisent, qu'ils ont envie de faire ou qu'ils aimeraient le plus faire. Et là, très clairement, c'est la vie au grand air, c'est le fait d'aller camper, le fait de faire des week-ends, des veillées. Voilà, tout ça, c'est vraiment le cœur de leurs attentes.
Alors, Aurélie Tsang le disait, tous les jeunes ne sont pas chez les scouts et guides de France, c'est une évidence. Et il y a d'autres endroits de socialisation, voilà. Mais il y a aussi la question du milieu social. Je crois que vous travaillez pas mal chez les scouts et guides de France et vous vous dites, c'est pas la même chose selon où on vit, d'où on vient, de quel milieu social. Comment vous avez observé ça? Qui sont les jeunes que vous accueillez de ce point de vue?
Alors oui, les scouts et guides de France, on accueille différents publics et on se rend compte que sur des milieux sociaux peut-être moins favorisés, l'accès à la nature est moins évident parce que, comme on le disait, la nature, elle peut faire peur. Elle peut faire peur et l'apprivoiser, ça se fait par des expériences progressives. Et parfois, quand on n'a pas eu cette chance-là de découvrir dans le milieu familial ou dans d'autres expériences cette proximité avec la nature, on a un peu plus de difficultés à aller camper, à cuisiner au feu de bois pour nous, à sentir qu'on est capable d'être confortable finalement, de vivre confortablement dans la nature. Et donc ça, c'est des expériences qu'on vit quand on propose des camps à des publics qui nous rencontrent pour la première fois et qu'on essaye justement d'accompagner peut-être plus fortement pour que ces expériences de campisme, de vie dans la nature, elles se fassent de la façon la plus agréable possible.
Aurélie Tsfang, c'est quelque chose que vous observez, vous aussi, cette différence d'approche de la nature, de lien à la nature, selon le milieu social d'où on vient?
Alors, je ne suis pas sociologue ni psychologue de l'environnement, donc je ne pourrais pas vous répondre précisément à votre question. En tout cas, ce qu'il est sûr, c'est qu'en fonction des conditions en fait dans lesquelles on grandit et de notre accès à la nature et en particulier en ville, eh bien on va pouvoir établir ou pas des liens avec des petites plantes sauvages qui sont dans les villes ou bien alors des parcs qui sont à côté de chez nous. Et là c'est vrai qu'il y a des inégalités très importantes et qui font que effectivement certaines personnes et certains jeunes en particulier n'ont pas un accès facile à des espaces qui leur permettraient uniquement de se délasser, de se balader, etc. Et donc, en fait, ils ne sont pas habitués. Donc, il y a différentes expériences de déshabituation. Alors là, je reviens des rencontres internationales de la classe dehors où j'entendais une expérience où les enseignants emmenaient les adolescents pendant 4 jours en vélo, là dans un lycée agricole, et puis on dépose le portable au début, hein, c'est un contrat, et puis après, eh bien il y a ces 4 jours qui se passent, et donc finalement peut-être il faut se déconnecter de ses habitudes justement du portable pour après pouvoir se connecter alors d'abord aux autres et puis après à d'autres expériences. Et en fait, ce que ça pose plus largement cette question de connexion à la nature ou de rapport à la nature, c'est l'éducation, mais c'est aussi quel accès les personnes ont aux environnements naturels en ville et comment en fait on pourrait aussi agir à grande échelle et de manière à ce qu'il y ait plus de justice environnementale pour que les villes se revégétalisent et permettent en fait des îlots où les personnes puissent se ressourcer, puisque on sait que se retrouver dans des endroits où il y a un peu de nature, même un tout petit peu, ça permet justement d'apporter beaucoup de bienfaits.
Alors, puisque vous évoquiez les rencontres internationales de la classe dehors, on peut en dire quelques mots pour ceux qui n'auraient pas entendu hier sur cette antenne, hier matin, Léonore Monconduit, la maire de Poitiers, en parler, puisque c'était donc la première édition et ça se passait à Poitiers. Ça manifeste, vous y étiez aussi, enfin, je sais pas vous, Boris Briantet, mais en tout cas, les Scouts et Guides de France y étaient aussi. Et pourtant, on parlait d'école, enfin, puisque c'était la classe dehors, mais ça pose, Aurélie Tsfang, la question des acteurs de ça, en fait, de cette connexion à la nature. Il y a des acteurs comme les Scouts et Guides de France, les mouvements d'éducation populaire, les associations, il y a l'école. Et comment tout ça se rencontre et quel est le rôle de chacun, de votre point de vue, ou d'après ce que vous observez?
Alors, ce qui me semble important là dans le développement de l'école au dehors, c'est le développement de partenariats donc entre l'éducation nationale ou bien alors l'éducation catholique sous contrat ou hors contrat, enfin je ne sais pas, et puis aussi les acteurs de l'éducation à l'environnement qui travaillent depuis et de l'éducation populaire qui travaillent sur ces sujets depuis très longtemps et notamment pour qu'il y ait en fait une acculturation à des pratiques éducatives qui ne sont pas communes dans l'éducation nationale. Donc par exemple les enseignants et les enseignantes, alors ce sont beaucoup des enseignantes, quand elles souhaitent emmener les élèves au dehors, alors maintenant ça commence progressivement à se démocratisé, je dirais, mais il y a quand même une réticence, une peur, parce que cela amène en fait à d'autres habitudes éducatives. Il s'agit de préparer la séance, il s'agit aussi de faire avec ce qui n'est pas prévu, et cela... Voilà, avec l'émergent, avec la nature qui émerge, et donc le partenariat et notamment l'accompagnement par des éducateurs à l'environnement permet d'acculturer notamment l'éducation nationale à d'autres pratiques éducatives, et donc à d'autres pratiques éducatives qui permettent d'être au contact avec la nature. Alors, l'école au dehors n'est pas uniquement de l'éducation à l'environnement, c'est beaucoup plus large que ça, donc il peut aussi y avoir des enseignants qui vont juste dehors pour faire des mathématiques ou pour des aspects culturels, hein, c'est beaucoup plus large. Mais en tout cas, le fait d'y être et d'être dans des endroits, voilà, dans des espaces qui peuvent être aménagés justement pour profiter du dehors, je dirais, eh bien, cela implique en fait une réflexion éducative beaucoup plus large que celle qui a été menée dans l'éducation nationale jusqu'à présent.
Boris Briantet, vous, comment, au Scout et Guide de France, vous concevez votre rôle? Quelle complémentarité avec l'école, avec d'autres acteurs?
Je pense que la complémentarité, ou là où on peut avoir une vraie plus-value par rapport à un environnement éducatif dans le scoutisme, c'est d'offrir ces espaces de vie dans la nature, d'aventure, de créer un récit en fait autour de la vie quotidienne, des activités campées. On est aujourd'hui sur un plan d'orientation qui nous invite, pour les Scouts et Guides de France, à vivre de plus en plus d'activités campées tout au long de l'année. Et j'aime bien dire que c'est pas la nuit campée, en fait, qui est vecteur d'éducation, mais c'est tout ce qu'on va trouver autour. C'est la vie quotidienne dans laquelle on va rendre des services de préparation des repas, de vaisselle, de ramasser le bois, faire le feu pour le groupe. C'est construire un habitat dans la nature, s'installer, observer son environnement. Et pour le coup, là, le scoutisme, il offre une vraie expérience, une expérience concrète, une expérience qui n'est pas hors sol. Donc là, je pense que on a vraiment une complémentarité par rapport à d'autres acteurs de l'éducation.
Et on va continuer d'en parler dans un instant. Cette reconnexion à la nature, on accueillera Nicole au 04 72 38 20 23. Vous continuez de nous appeler pour témoigner, pour nous parler de vos jeunes, de vos enfants, petits-enfants. Faites-nous part un peu de vos observations sur leur lien à la nature. Vous pouvez également nous laisser vos messages dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis, ou par mail à direct@rcf.fr. Et en attendant vos appels au 04 72 38 20 23, je vous propose de prendre la route, en tout cas avec Arthur H, extrait de son dernier album qui est sorti il y a quelques mois, c'était en février, et cet album s'appelle La Vie sur RCF.
Depuis si longtemps, tu attends ce qui ne vient jamais. Chasseur d'ombre, chasseur de fantômes. Ce que tu as sous la main, tu le prends. Ce que tu veux vivre, vis-le. Le temps t'échappe, le temps court, le temps s'enfuit. La chance apparaît, puis disparaît. Ce que tu as sous la main, tu le prends. Tout de suite, dans l'instant, tu vis. Depuis toujours, tu ne sais qu'espérer. La vie, c'est demain, demain, c'est loin. Ce que tu as sous la main, tu le prends. Ce que tu dois vivre, vis-le. Qui te porte, laisse-le t'emmener vers ton désir. Tu es la route, la poussière, le plaisir. Ce que tu veux vivre, tu le vis.
La route, c'était Arthur H sur RCF pour vous accompagner en ce mardi matin.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Anne Kerléo.
On parle reconnexion à la nature des jeunes ce matin dans Je pense, donc j'agis. Avec nos deux invités, Aurélie Zwang, enseignante chercheuse en sciences de l'éducation, et Boris Briantet, responsable national nature des scouts et guides de France. Et la première à nous rejoindre au 04 72 38 20 23. C'est vous, Nicole. Bonjour, Nicole.
Oui, bonjour, Melchior. Alors, excusez-moi, je me manifeste. Je voudrais pas paraître trop égocentrique, mais bon, le thème m'interpelle. Voilà, j'explique. La nature a été pour moi une thérapie. Petite fille dans un village des Deux-Sèvres dans les années 53 et quelques, hein, d'accord. Je n'avais pas d'amis dans ce petit village, ni de sœurs, seulement de frères plus jeunes que moi. Et mes parents boulangers n'avaient pas le temps de s'occuper de moi, ni argent à cause du commerce. Donc pas de jouets, pas de livres et une certaine solitude. Mais il y avait autour de moi une nature et une forêt magnifique et magique. Où j'allais me promener toute seule à l'époque, sans risque, donc vu l'époque du tout. Et dans cette forêt, j'étais Alice au pays des merveilles. Avec du recul, cette nature et cette forêt ont été de vraies thérapies, donc, et compenser les manques que je comprenais d'ailleurs tout à fait, et sans incriminer mes parents. Voilà, et j'ai, à 14 ans, j'avais écrit un petit poème. Si vous voulez, je vous le lis, mais bon.
Ah bah, si vous voulez, mais s'il est court, alors.
Il est court, voilà. Bah, bon, alors, à 14 ans, voilà. Suite donc avec l'émotion que suite à ça. Donc, assise sur un oreiller de verte mousse mouillée, à cette heure tardive, aucun son ne m'arrive. Je rêve une fois encore lorsque tout le monde dort. Dans cette forêt si chère où le temps est éphémère, une feuille couleur de miel de mon extase me réveille, me frôlant à peine de son aile. Ô nature pure et toute belle, je trouve en toi le bonheur et je savoure à cette heure ta solitude, ton harmonie, si douce quand le jour finit, la nuit est là et je prie mieux. Dans ta face, je vois Dieu.
Eh ben voilà, Nicole au pays des merveilles. Merci beaucoup pour votre appel au 04 72 38 20 23. Aurélie Zwang, je vous ai vu émue en écoutant ce témoignage de Nicole qui nous rappelait à la fois ses souvenirs et puis ce très beau poème, cet ode à la nature. Hein.
Alors, j'étais touchée par ce partage. Et en fait, ce dont Nicole là témoigne, c'est de la formation en fait par notre environnement. C'est ce qu'on appelle l'éco-formation. Donc en fait, nous sommes formés par trois éléments. Hein. Nous sommes formés par nous-mêmes. Nous sommes formés par les autres, au contact des autres, et nous sommes formés aussi par les choses, et par notamment par la nature. Et là, en fait, donc on appelle ça l'éco-formation. Et là, ce dont témoigne en fait Nicole, c'est cette éco-formation. Et il y a deux temps à l'éco-formation. C'est le temps d'immersion, le temps que Nicole a vécu quand elle était petite. Et puis le temps où on prend conscience, en fait, de cette relation qu'on a tissée au cours des expériences que nous avons eues dans la nature. Et c'est une piste très intéressante, justement, alors par rapport à votre thématique de reconnexion, de prendre conscience de cette éco-formation. Et actuellement, eh bien, ce n'est pas du tout au programme de l'éducation scolaire.
Boris Briantès, ce que vient de dire Aurélie Tsfang et aussi le témoignage de Nicole me font penser à quelque chose qui est écrit dans un de vos documents. Les Scouts et Guides de France ont adopté en 2019 une résolution qui a pour titre « Tout est lié ». Et alors, je vous en lis un petit extrait. « Notre méthode éducative nous amène par essence à concevoir les relations à soi-même, aux autres, à Dieu et à la nature comme un tout et à y répondre par l'expérimentation. » C'est ce fameux « Tout est lié » qui est cher au pape François, mais qui peut rejoindre d'autres formulations comme celle à l'instant d'Aurélie Tsfang.
Oui, et j'étais aussi assez ému par ce témoignage de Nicole. Elle nous parlait de rêve, elle nous parlait de contemplation. Et d'un point de vue spirituel, la nature, nous, on l'approche de plein de manières différentes. C'est une nature à célébrer, c'est une nature à contempler pour sa beauté. Certains y voient l'œuvre de Dieu. C'est une nature à protéger, c'est une nature à servir. Et tout ça se mêle dans cette dans le rapport que nous on essaie de tisser et de renforcer avec la nature. Et tout est lié. Nous dit bien ça. Il nous dit notre texte. Passons par l'expérience. Vivons dans la nature. On n'éduque pas hors sol en fait. Si je prends un parallèle. On éduque à la paix chez les Scouts et Guides de France par la vie en équipe, par le fait de construire ses projets, de prendre des décisions collectives. Et de la même façon, on éduque à l'environnement, à cette conscience environnementale, par la vie concrète, par une vie simple, des expériences régulières, par le fait de se mettre au rythme de la nature.
Alors, on entend depuis le début de cette émission déjà des exemples sur comment on fait tout ça, la méthode. Enfin, on commence à discerner un peu la méthode Scouts et Guides de France. Aurélie Tsfang, vous nous avez donné aussi d'autres exemples. Mais en même temps, on a un peu l'impression, en tout cas, vous le disiez à l'instant, du côté de l'école notamment, qu'il y a tout à faire. Qu'est-ce qu'il y a à faire, quoi? Comment on fait pour continuer à tracer ce sillon, à créer des méthodes, des outils, à former, enfin...
Il y a plein de choses à faire. Déjà, peut-être réinterroger ce qui est fait actuellement dans l'éducation scolaire. On est plutôt dans une éducation pour l'environnement, c'est-à-dire on cherche à résoudre des problèmes, ce qui est très bien, hein, et à répondre à des objectifs, notamment les objectifs de développement durable. On se forme aussi, on éduque au sujet de l'environnement, c'est-à-dire qu'on va apprendre, des savoirs scientifiques sur l'environnement. Alors, on pourrait en parler de ces savoirs. Hein. On apprend, par exemple, à notre corps, à la physiologie, mais on n'apprend pas forcément le nom des plantes qui nous entourent, hein, par exemple. Et justement, c'est ce que l'école peut-être au dehors peut peut-être apporter, justement, à savoir nommer ce qui nous entoure. Déjà, ce serait déjà un premier pas.
Ça veut dire que ça, il faut l'introduire dans les programmes. Il faut changer les programmes, de votre point de vue.
Alors. En fait, de mon point de vue, il faudrait même complètement changer de paradigme éducatif. C'est-à-dire qu'il faudrait changer dans l'éducation scolaire, on est sous le paradigme de l'éducation en développement durable. Donc avec une orientation économique de mon point de vue il faudrait changer ça, c'est-à-dire qu'en fait il faudrait éduquer plus largement aux questions socio-environnementales ou même éduquer si on reprend un terme je sais pas moi éduquer au symbiocène, voilà, c'est-à-dire éduquer en fait à être justement en relation dans ce monde, à être en relation avec les autres, peut-être aussi mieux en relation avec soi et mieux en relation avec l'environnement. Et ça peut passer notamment par ces immersions, peut-être pas tout le temps, parce que l'idée c'est quand même qu'il y ait une complémentarité entre ces différentes approches éducatives là pour sur et en fait dans l'environnement. Et il faudrait que la part d'éducation dans l'environnement soit un petit peu plus importante de mon point de vue pour pouvoir tisser des liens et aussi que nous réfléchissions finalement à l'être humain. On dit souvent le citoyen. Effectivement, c'est très important, la citoyenneté. Mais au-delà, quel être humain veut-on voir advenir pour maintenant et pour le futur.
C'est la question du cap de notre société, en fait, dans laquelle s'insère l'éducation et bien d'autres choses.
Oui, tout à fait. C'est la question des finalités d'éducation, c'est la question des valeurs en éducation et en particulier des valeurs environnementales qui sont portées dans les programmes éducatifs. Actuellement, les valeurs environnementales qui y sont plutôt du côté de l'anthropocentrisme ou bien alors dans une orientation qui n'est pas tout à fait clarifiée. En tout cas, pas dans une orientation qu'on pourrait qualifier d'éco-centrique, c'est-à-dire pas dans le développement d'une éthique des relations entre les humains et les non-humains.
Boris Briantet, pour vous, comment au Scout et Guide de France se pose la question de qu'est-ce qu'il y a à inventer aujourd'hui en termes d'outils, de formation, sachant, on l'a compris, que, enfin, vous avez dit qu'il y a déjà, vous avez 100 ans d'expérience, mais en même temps, c'est à réinventer dans le contexte d'aujourd'hui qui est totalement bousculé.
Oui, je pense qu'il y a deux aspects à réinventer, ou du moins deux questions qui se posent à nous. La première, c'est celle de qui sont nos bénévoles. Aujourd'hui, si les jeunes qu'on accueille sont déconnectés ou ont perdu une forme de lien avec la nature, il en va de même aussi pour les adultes. Et on est un mouvement en croissance, on accueille de plus en plus de bénévoles qui n'ont jamais fait de scoutisme, et c'est une vraie chance. Ça nous demande de former l'ensemble de ces bénévoles, et les activités dans la nature qu'on peut vivre chez nous, elles se basent sur un ensemble de techniques, de savoir-faire pratiques et qui s'apprennent. Et donc ça, c'est des enjeux de formation pour nous. Donc ça c'est assez important. Et le second aspect où on est amené à se réinventer, c'est sur les techniques en proprement parler de vie dans la nature. Aujourd'hui, face à la crise climatique, face à la crise environnementale, on est amené à réinventer de nouveaux récits, à aller chercher des techniques nouvelles, par exemple d'installations plus sobres, plus moins impactantes pour notre environnement. Et tout ça, on est en train d'aller s'inspirer de différentes expériences pour pouvoir les réappliquer derrière dans nos programmes éducatifs.
Alors, on se l'est un peu dit, mais pas encore beaucoup. Pourquoi faut faire tout ça finalement? Quels sont les enjeux qu'il y a là-dedans, à la fois sur le plan individuel pour les personnes qui le vivent, pour chacun, chacune d'entre nous, les jeunes, les enfants en particulier, et puis plus collectivement pour la société? Ce que je vous propose d'évoquer pour terminer cette émission, d'abord sur le plan individuel, Boris Briantet, quand ça se passe bien, que ce lien à la nature existe pour des enfants et des jeunes, qu'est-ce qu'il produit en fait concrètement dans leur vie?
Moi, je pense que il produit un lien différent avec son environnement. Et la façon dont on va pouvoir tisser un lien avec la nature, c'est aussi la façon dont on va pouvoir tisser un lien avec les autres. Ça, c'est le premier point. Et après, très concrètement, je pense que ça nous permet, ça permet aux jeunes de développer un certain nombre de compétences de débrouillardise qui seront attendues finalement dans le monde de demain. On est face à beaucoup d'incertitudes vis-à-vis de l'avenir, et on sent que une des compétences attendues sera celle de pouvoir faire face à cet inattendu, à se débrouiller en toutes circonstances. Et de manière très concrète, en fait, quand on construit une table chez nous, on utilise du bois qu'on va trouver dans la nature. On ne sait pas comment il est fait. On ne sait pas comment il est fait à l'avance. Et on va devoir s'adapter à ça et devoir développer des stratégies de coopération à plusieurs pour construire finalement cette table, construire nos installations. Et ça, ça prépare déjà à l'avenir.
Quand vous disiez ça crée des relations différentes à notre environnement, par exemple, au Scout et Guide de France, vous dites on constate que ça produit des rapports garçon-fille plus équilibrés. Alors expliquez-nous comment, pourquoi.
Alors c'est aussi quelque chose qu'on voit à l'école, dans les cours de récréation qui ont été plus végétalisés. L'espace, en fait, est accessible de manière différente aux garçons et aux filles. Là où on a une cour bitumée, finalement, l'espace de jeu va être principalement occupé par les garçons. Et quand on recrée des espaces naturels, on va créer un espace beaucoup plus partagé, équitablement entre garçons et filles. Et en fait, on le retrouve aussi dans le scoutisme. Lorsqu'on va dans la nature, finalement, toutes et tous vont faire face aux mêmes difficultés, parfois aux mêmes aventures. Et donc, à la fois les garçons et les filles participent au service de vie quotidienne, à la fois les garçons et les filles participent à des récits d'aventures dans la nature. Et ça crée des rapports différents.
Même question, Aurélie Tsong, qu'est-ce que ça produit, un rapport à la nature un peu consistant chez une personne, chez un jeune en particulier, d'après ce que vous avez pu observer, étudier ?
Alors, une fois de plus, je ne suis pas psychologue de l'environnement. Mais en tout cas, les études en psychologie de l'environnement nous disent que des rapports qui ont été positifs et aussi avec d'autres dans la nature permettent, quand les personnes grandissent, justement, de se sentir beaucoup plus impliquées face aux problématiques socio-environnementales. Donc ça a notamment été discuté par Shaola, par exemple. Maintenant, il y avait aussi la question de qui n'a pas été vraiment abordée, c'est quelle éducation aussi on peut développer pour cette connexion à la nature. Alors, j'entends toute cette éducation là où en fait on se socialise beaucoup, on fait beaucoup de choses ensemble, on va construire ensemble, etc. Alors je pense que ça ne suffit pas pour peut-être aussi déconstruire des représentations sociales sur les rapports hommes-femmes. Ça peut aussi y contribuer, mais une autre piste aussi pourrait être une forme d'éducation à l'attention. Encore pour reparler des rencontres internationales de la classe dehors, il y avait cette piste là de aller dans la nature et de ne rien faire. Et je me suis posé la question de la pertinence de cette expression, ne rien faire. En fait, c'est peut-être ça qu'il faudrait interroger, c'est-à-dire le fait de s'asseoir, d'écouter, de contempler, etc. Il faudrait qu'on arrive nous à dire que ce n'est pas rien faire, c'est justement être en train de faire autre chose. On n'est pas peut-être dans l'activité physique, on n'est peut-être pas non plus dans une très grande activité intellectuelle. On est juste là posé et en accueil, en attention. Et c'est peut-être ça aussi qu'il faudrait développer et accepter que ce soit peut-être dans les différents milieux éducatifs.
9h50 sur RCF, on arrive doucement à la fin de cette première partie d'émission. Vous avez encore quelques minutes pour participer, faire comme Nicole et nous appeler au 04 72 38 20 23 pour nous parler de la reconnexion des jeunes à la nature et de vos observations sur ce lien à la nature des enfants et des jeunes que vous connaissez. On continue, Anne, avec nos deux invités.
Et alors, au-delà de l'enjeu qu'a cette connexion à la nature pour chacun individuellement, de votre point de vue, est-ce que il y a aussi un enjeu plus collectif, sociétal, notamment dans le contexte d'urgence écologique qu'on vit aujourd'hui? Je vous vois, Aurélie Tsong, opinée du chef.
Oui, c'est... En fait, par rapport aux problématiques socio-écologiques, il peut y avoir des approches très politiques, très militantes, qui sont absolument nécessaires. Mais cette question de construire d'autres rapports à la nature et d'autres rapports avec le vivant, avec les non-humains, elle est éminemment politique. C'est quelque chose, notamment il y a Baptiste Morisot qui parle de crise de la sensibilité et le fait de prendre conscience justement, peut-être, alors il y a différents termes de cette désensibilisation, de cette, alors on, ici on pourrait dire déconnexion, de ce rapport peut-être, même certains diraient dirais pathologique, hein, à la nature, qu'on ne considère que comme un puits de ressources, voilà, dans lequel en fait on pourrait puiser indéfiniment, eh bien, c'est politique. Et ça permet justement peut-être de renverser en fait la manière dont on va peut-être résoudre ces problèmes-là. Alors évidemment, il va falloir s'adapter et il va y avoir des grands bouleversements. Mais peut-être qu'il n'est pas trop tard justement pour construire d'autres fondations et essayer progressivement de s'ouvrir à d'autres perspectives anthropologiques.
Et les fondations, ça se crée du côté de l'éducation justement ?
Oui, tout à fait. Alors, l'éducation scolaire ne pourra pas évidemment résoudre tous les problèmes, hein, comme l'éducation par les scouts, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que il est nécessaire d'avoir une réflexion collective beaucoup plus large en fait sur nos rapports à la nature et dans toutes les sphères de la société.
Boris Briantet, vous scouts et guides de France, vous vous sentez justement impliqué dans quelque chose de collectif et dans la participation à une réponse à l'urgence écologique, en faisant tout ce qu'on décrit depuis le début de l'émission.
Oui, et à double titre, au titre du fait d'offrir des espaces d'engagement pour les jeunes, de leur permettre de réaliser des projets de protection de la nature. On a un ensemble de dispositifs pour ça. On, depuis plus de 40 ans, en fait, on a un projet qui s'appelle Nature Environnement et qui permet à des jeunes de 14 à 17 ans d'agir, de faire de la défense des forêts contre les incendies en Méditerranée et de développer aussi plein de partenariats avec l'Office national des forêts, avec le parc national des Calanques. Il y a vraiment cet enjeu de pouvoir offrir ces pistes d'engagement, mais tout en gardant aussi une forme de simplicité, d'un rapport gratuit avec la nature et de tisser ce lien-là. La question, elle est vraiment entre les deux. Et on ne peut pas aller dans un sens sans aller aussi dans l'autre en parallèle.
Alors, je ne sais pas s'il y a des enfants et des jeunes qui nous écoutent à cette heure-là. Il y a sûrement des parents et des grands-parents et qui peut-être se disent « Ok, je suis convaincue de tout ça, mais moi, comment je fais ? Qu'est-ce que je peux proposer à mon fils, ma fille, mon petit-fils, ma petite-fille, soit à titre individuel ou alors où je peux l'orienter pour qu'il puisse vivre cette connexion à la nature ?» Et Aurélie Tsong, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, on n'a pas forcément beaucoup évoqué les manières de faire, les méthodes. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler d'illustrations, d'exemples, peut-être rencontrés d'ailleurs à ces fameuses rencontres internationales de la classe dehors, ou que vous connaissez par ailleurs ?
Ben, je peux peut-être parler des pratiques de classe dehors, hein, des pratiques qui sont... Alors, par exemple, puisque je parlais là de cette éducation à l'attention, quelque chose qui est pratiqué régulièrement par les enseignantes et les enseignants, c'est le moment à moi. Ce qu'on appelle aussi le seed spot, c'est cet espace en fait, cet espace-temps qui est offert, d'un quart d'heure, où on demande en fait à l'élève de se trouver un endroit. Alors ça se fait beaucoup effectivement dans des espaces qui sont fortement naturalisés, et l'élève s'y pose et on l'autorise à faire ce qu'il veut. Donc, il y a des cas où des élèves se sont endormis. Ils peuvent dessiner, ils peuvent lire, ils peuvent écrire. Et c'est un moment, qui leur est propre. Et ça, ce sont des petits espaces qui s'ouvrent dans l'école, par exemple. Après, il y a aussi tout ce que permet, ce que nous avons appelé dans la recherche action participative Grandir avec la nature, l'approche par la liberté, l'approche pédagogique par la liberté. C'est-à-dire laisser en fait les jeunes enfants explorer librement pendant un laps de temps de 30 à 40 minutes l'espace. Et là, en fait, ils vont pouvoir évidemment jouer avec les autres, mais aussi se poser, enfin faire ce qu'ils veulent. Et c'est là où ils vont pouvoir établir des contacts différents de la nature que ceux qui sont prescrits par l'école.
Boris Briantet, il nous reste très peu de temps et puis pendant la deuxième heure, on va continuer, hein, Melchior, à parler avec des exemples concrets de ce qui se vit au Scouts et Guides de France. Peut-être quand même une chose à nous partager, un exemple pour terminer en 30 secondes ou une petite minute.
Oui, alors je pourrais dire venir nous rejoindre, mais ce serait peut-être un peu trop facile. Je me dirais aller camper, prendre le temps de préparer son sac à dos, une tente, un tapis de sol, un duvet, et puis partir simplement comme ça, sans vraiment de but, partir avec ses enfants, camper, et puis sentir, regarder les étoiles le soir, sentir la fraîcheur le matin, et puis revenir à la maison. Voilà.
Merci, on l'a bien compris à travers vos paroles. Il n'y a pas de réponse univoque et unique, les acteurs sont complémentaires, les scouts guides de France en sont un. Merci Aurélie Svang d'être venue nous parler de ces exemples-là que vous travaillez au quotidien.
Merci à vous.
Et merci à l'équipe de Montpellier, de Paris également, qui vous accueillait ce matin en studio. Merci beaucoup à Anne-Claire Léo. Une émission, alors on l'a dit tout à l'heure, en partenariat ce matin avec les scouts et guides de France. La nature qui fait partie du scoutisme, mais un peu plus depuis ces dernières années. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Très concrètement, on va parler de cette méthode scout, hein, bien sûr, et comment on essaye de reconnecter, ou en tout cas de les connecter, hein, ces jeunes à la nature. On va en discuter dans un instant. Merci Boris Briantet, merci Aurélie Zwang. Vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23 pour nous parler de vos enfants, vos petits-enfants, s'ils sont scouts, quel est leur lien avec la nature, et parlez-nous également de vos souvenirs de scoutisme. Vous pouvez laisser vos messages par mail également à direct@rcf.fr. À tout de suite.